Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour commenter l'actualité avec Régis de Castelnau qui a déjà commencé à parler. Bonjour. Vous êtes là en studio avec nous, c'est bien, vous avez quitté votre Provence.
Oh oui.
Avocat, votre blog Vue du droit, vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Anne-Laure Blin, bonjour, députée LR du Maine-et-Loire. Michel Taupe, fondateur du site d'information Opinion Internationale et vous êtes également fondateur de l'association Ensemble contre la peine de mort. Et Janie Leroy, bonjour, vous êtes auteur et chroniqueur sur Boulevard Voltaire. Vous écrivez des papiers très, très drôles et très pertinents, je dois le dire. On va parler évidemment de sujets qui font l'actualité, pouvoir d'achat, les classes moyennes, les grandes oubliées, carburant, taxes foncières, peu d'aide pour cette classe moyenne qui tend d'ailleurs même à disparaître. Un pass sanitaire jusqu'à l'été, point d'interrogation. L'élection de Miss France est-elle sexiste? Voilà, il y a une association féministe qui porte plainte, qui estime que c'est du travail dissimulé et discriminant. Et puis Philippe Chevalier, du Haut Chevalier Las Palès, qui hier, vous l'avez peut-être entendu... Non, c'est Philippe Chevalier.
Qui hier
était interviewé, vous allez entendre l'extrait, et qui a affirmé qu'il votait Marine Le Pen. Et voilà, on en parle ce matin. Il aurait dit qu'il votait Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau, on n'en aurait peut-être pas autant parlé. Mais voilà. Coup de cœur, coup de gueule avec vous. Régis, un coup de gueule.
Ah bah c'est moi qui commence.
Bah oui.
Donc c'est très bien, moi je m'apprête à m'endormir.
Oh, non, je plaisante. Bah c'est pour ça, je vous tiens réveillé parce que
c'est la déclaration de l'ambassadeur d'Algérie dans un contexte qui est quand même un petit peu délicat. Il y a toute la polémique autour des événements du 17 octobre 1961, qui sont des éléments historiques qu'il faudrait regarder avec l'œil des historiens. Et non, ça a été un sujet très très politique, mais l'ambassadeur d'Algérie en a profité. Mon coup de gueule, c'est moins contre ses déclarations à lui que la réaction du gouvernement français. Mmh. Il a dit que la communauté algérienne, qui était la plus nombreuse étrangère en France, qui comprend beaucoup de franco-algériens, que cette communauté devait peser sur le fonctionnement, sur la politique du gouvernement français. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'on a un monsieur, alors il paraît qu'Erdogan fait pareil en Allemagne, on a un monsieur qui vient nous dire, voilà, chez vous, ils sont français, ils votent, etc., mais ils doivent se déterminer en fonction des intérêts de l'État algérien. Que ce monsieur ne se soit pas retrouvé le lendemain à Alger comme persona non grata, qu'il n'ait pas été fichu dehors, moi je trouve ça assez ahurissant. Le débat sur ce qu'a été la colonisation, ce qui s'est passé le 17 octobre, je conçois que ce soit justifié, la décolonisation que la France a assez mal faite dans l'ensemble de son empire. Ok, ça c'est des débats historiques, mais qu'il y ait une telle ingérence dans la politique française en s'appuyant sur une communauté pour lui demander d'être déloyal avec le pays auquel ils appartiennent, je trouve ça invraisemblable. Et que
il n'y a pas de réaction de la France.
Comment se fait-il qu'il ne soit pas déjà parti ?
Mais il n'y a pas de réaction parce qu'Emmanuel Macron a le viseur centré sur son électorat franco-algérien. Et la réalité, c'est qu'il agit énormément en fonction de cette considération depuis qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Rappelez-vous, lorsqu'il a dit... Il était encore candidat à la télévision algérienne. Oui. La colonisation était un crime contre l'humanité. Il a insisté là-dessus. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas que l'Élysée, et je pense que l'Élysée risque fort de ne pas réagir.
Après,
c'est très grave. Et je salue ce coup de gueule. Parce que effectivement, c'est extrêmement grave. C'est une véritable ingérence dans la vie politique intérieure. Et j'ai envie de dire, ça ne fait que commencer. Parce qu'en mars prochain... on va commémorer les 60 ans des accords d'Évian. Vous allez voir le bal des contritions et des mea culpa et des repentances que va nous asséner le président de la République en disant, je le vois déjà commémorer les accords d'Évian, en disant nous avons été les grands méchants qui avons oppressé les Algériens. On n'en a pas fini. On n'en a pas fini.
Rapprochez-vous du micro.
Il n'y a rien de bien nouveau parce que chaque manifestation, chaque match de football, on voit les drapeaux algériens qui sortent.
Et c'est ça. Exactement, parce que l'Algérie veuille avoir des intérêts et faire que les Algériens en France agissent pour l'Algérie, bon, admettons, pourquoi pas, mais c'est pourquoi la France, aujourd'hui, accepte que les Algériens jouent un rôle dans notre pays. Et c'est là, justement, quelque part, la faiblesse de notre pays, c'est de ne pas reconnaître le rôle fondamental de notre nation, de son histoire, de sa construction, et d'en être fier. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, et de la polémique, hein, de l'attitude d'Emmanuel Macron, à s'excuser tout le temps de l'attitude que la France aurait eue par rapport à d'autres. On diminue la parole de la France, et c'est là le gros enjeu, et c'est aussi un enjeu de la présidentielle, je pense, donner le vrai pouvoir, la vraie force, la vraie voix de la France.
Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a dit il y a quelque temps, l'Algérie n'existait pas avant que la France ne vienne, c'était une province ottomane, etc. Il passe son temps à faire du en même temps, et malheureusement ce qui est monté en épingle, moi je pense que les gens d'origine algérienne en France, qui sont français, ça ne doit pas trop leur convenir. Je ne parle pas de la jeunesse, il y a une partie de la jeunesse qui est effectivement... C'est à eux qui s'adressent tout à fait, parce que je pense qu'il y a énormément d'Algériens en France ne sont pas sur cette ligne-là. Hein. Ils y vont en vacances, au bled, comme ils disent, ce que je trouve légitime et normal. Hein. Moi, je suis
mais
dans l'Afrique du Nord aussi.
Hein, où ils sont français, mais ils doivent défendre la France.
Mais, tout à fait, mais ils le font hein, pour un certain nombre. Mais vraiment, c'est de l'inconséquence extraordinaire.
Mais est-ce que ce n'est pas contre-productif, Jeannie, peut-être, sur le fait que, électoralement, ça va pas forcément lui rapporter ?
Non.
Non.
Non, mais ça n'explique toujours pas pourquoi il y a tout ce déploiement de drapeaux. Quelle est la signification de drapeau algérien, drapeau tunisien, dès qu'il y a un événement.
Il y a des drapeaux
portugais
aussi.
C'est quoi le sens ?
Il y a des drapeaux portugais aussi, quand il y a des matchs de foot, etc.
C'est pas pareil. On est vraiment dans l'émanation de communautés en France. Et c'est ça ce qui illustre ces drapeaux à l'occasion des matchs de foot, mais aussi à l'occasion de mariages. On a eu le débat dans l'hémicycle au moment de la loi sur le séparatisme. On a ces communautés qui prennent un poids de plus en plus important en France. Et la France, qui à côté de ça est complètement perdue, ne sait plus quels sont les repères, ses repères fondamentaux, et ne sait plus transmettre à ses générations la fierté d'être français.
Quand vous parlez des drapeaux algériens, moi je me souviens toujours du livre d'un des fondateurs du groupe Zebda, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire pour le chanteur principal du groupe Zebda, qui a écrit un livre dans lequel il prête à sa maman les paroles suivantes. Sa maman lui dit, étant jeune, « Sois français, mais ne le deviens pas. » C'est-à-dire, « Sois français pour les papiers, mais ne le deviens pas. » J'ai trouvé cette phrase d'une violence, d'une violence terrible, parce que c'est cela, malheureusement, le destin de nos binationaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été élevés dans l'idée que la France est une terre sur laquelle ils vont grandir, par nécessité, mais qu'ils ne doivent pas pleinement épouser les valeurs de la République. Donc, effectivement, ils brandissent le drapeau algérien, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se sentent plus algériens, quelque part, que français. Et ce qui est dramatique, parce que j'aimerais terminer sur les propos de l'ambassadeur d'Algérie, c'est qu'il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu dans les rues d'Algérie le fameux mouvement, le Irak, où vous aviez des centaines de milliers de jeunes Algériens qui, tous les vendredis, au lieu d'aller à la mosquée, manifestaient dans les rues d'Algérie pour dire on ne veut pas de ce régime autoritaire, on ne veut pas de cet état militaire, on veut d'un avenir démocratique. Et là, je me rappelle les jeunes algériens qui disaient « Que dit la France pour nous soutenir ? Que fait Emmanuel Macron pour nous soutenir ?» Là, il aurait dû prendre la parole. Ouais. Là, il aurait dû être du côté du peuple algérien et il a été silencieux. Et je peux vous dire, ce silence a fait beaucoup de mal à la France, parce que la jeunesse algérienne, elle ne veut pas de l'État algérien d'aujourd'hui.
Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, on va continuer à débattre et à commenter l'actualité. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Débat.
Les débats, l'actualité commentée aujourd'hui par Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire, Régis de Castelnau, avocat. Votre dernier livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron veut faire un big bang pour la justice, réformer la justice.
Je pense que tout ça n'ira pas très loin, mais il y a effectivement un problème entre lui et la justice aujourd'hui. Après qu'elle l'ait soutenu, elle ne le soutient plus, semble-t-il.
Membre également de la rédaction de Front Populaire, Michel Taupe, fondateur du site d'information Opinion International et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, et Janie Leroy, chroniqueur à Boulevard Voltaire. L'élection de Miss France est-elle sexiste? Aurons-nous un pass sanitaire jusqu'à l'été? Philippe Chevalier, hier, a déclaré qu'il allait voter pour Marine Le Pen. Réaction un peu partout dans les médias, et ici aussi, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on est de droite et qu'on vote pour Marine Le Pen? Peut-être que ce sont deux choses différentes d'ailleurs. Et puis le pouvoir d'achat, les classes moyennes, les grandes oubliées, on en parle avec vous. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Janie Leroy, vous, c'est un coup de cœur.
J'ai un coup de cœur pour le demi-tour magnifique d'Emmanuel Wargon sur la maison individuelle.
Ah oui.
Un rayon de braquage extraordinaire.
Oui.
Une maniabilité.
Approchez-vous.
Celui de la triomphe de son mari.
Et voilà, c'est parce que dans un premier temps, elle était venue d'abord, on a l'impression qu'elle se tirait une balle dans le pied parce qu'elle disait qu'il lui fallait absolument plus de mixité sociale, alors qu'on sait très bien qu'elle habite dans une ville où il n'y en a strictement aucune. Le mixeur est en panne.
Ouais. Sa mort.
Vous dites, qu'est-ce qui se passe pour... Elle se tire une balle dans le pied, qu'est-ce qui se passe? Je lis l'article, je vois sa photo, je dis peut-être elle est en procès avec son coiffeur. Et alors, après, elle revient. Et là, cette fois-ci, elle dénonce la maison individuelle avec jardin. Or, elle habite une maison individuelle avec jardin. Et là, je pense qu'elle s'est fait remonter les bretelles sérieusement, parce qu'évidemment, un candidat qui part avec dans ses bagages quelqu'un qui veut en finir avec la maison individuelle d'ici, je ne sais pas, 20-30 ans, il va faire un score à peu près proche de Poutou. Ouais.
Donc, alors, comment elle a justifié? Moi, je n'ai pas vu son demi-tour.
Elle a dit, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Et en fait, sa maison, telle qu'elle est, c'est la formule qui est bonne. C'est-à-dire que la maison individuelle, c'est pas bien, mais là où elle habite, c'est bien.
Voilà, parce
que
c'est en fait, ce qu'elle ne veut pas, c'est le modèle du pavillon de lotissement.
Les lotissements. Voilà. Les lotissements des années 70.
Donc, Kaufmann et Broad, vous êtes dans un autre monde, vous êtes hors sol.
Pourquoi?
C'est le haut de la résidence,
la maison de maçon.
Le modèle à l'ancien du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. C'est ce qu'elle avait déclaré. Alors elle dit, je n'ai parlé que des pavillons en lotissement. La maison individuelle, c'est un rêve de Français, je le comprends. Je ne vois pas la différence.
Non.
Non, mais
c'est la maison dont on peut faire le tour, c'est ça?
Voilà.
Et la sienne, donc
elle n'en fait pas le tour.
Elle n'en a pas fait le tour.
Donc elle est pour l'urbanisation et de la densification.
Non, mais trêve de plaisanterie, au-delà de cette...
ce demi-tour.
De ce demi-tour qui était en fait un aveu. C'est un aveu.
Oui,
parce que très étrangement, finalement pas étrangement, puisque ça correspond à Emmanuel Macron qui est complètement hors sol depuis le début, c'est qu'en fait la politique du logement de Macron a été catastrophique depuis 5 ans. En fait, il n'y en a pas eu. Tous les acteurs de l'immobilier le disent, que ce soit du logement social jusqu'aux promoteurs, les plus méchants promoteurs qu'on puisse imaginer. Et la réalité, c'est que alors même qu'on sait que c'est un des piliers de toute économie, il y a l'investissement productif, mais il y a aussi l'immobilier qui est absolument capital. Quand le logement va, presque tout va, et ben il n'y a pas eu de politique de logement. Et on comprend aujourd'hui pourquoi, puisque la ministre en charge du dossier veut donner honte au désir fort légitime de tous les Français d'être propriétaires.
Parce que la réalité, c'est que c'est quand même le souhait de nos concitoyens. Ministre du Logement nous parle des résidences et des pavillons, vous avez quand même une ministre de l'écologie qui défend la non-artificialisation des sols. Donc, en fait, aujourd'hui, les communes se retrouvent dans des vraies difficultés parce qu'ils ne peuvent plus construire parce qu'on leur interdit d'utiliser leur sol dans les communes. Sauf que la population est de plus en plus importante. Eux ne peuvent plus construire. Par ailleurs, ils n'ont plus, on pourra discuter de tout ça, ils n'ont plus de moyens. Donc, on contraint les communes. Donc, il y a une politique qui n'existe pas du tout. Donc, il y a finalement des notions sur ce sujet, mais complètement contradictoires.
Et le prétexte de tout ça, c'était réchauffement climatique, hein, je crois. C'était son
argument. Oui, c'est toujours sous couvert de réchauffement climatique.
À mon avis, c'est la preuve qu'il ne travaille pas. Enfin, voyons, Madame Wargon, je trouve assez
lamentable. Il ne vaut pas sur le terrain, surtout.
Et attendez, la question de l'étalement urbain est une vraie question. C'est une vraie question. La question de ces lotissements, voir ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est une vraie question. Donc, sur l'utilisation des sols, il y a l'artificialisation qui a des conséquences immédiates en matière de catastrophes, etc. Et il y a également l'utilisation rationnelle de l'espace. Mais ce sont des questions qu'on n'aborde pas de cette façon-là. Comme Madame Runacher qui vient dire la chaîne de production, c'est magique.
Enfin, oui, dans une usine, ouais, c'est
horrible,
ça. Mais là, en fait, mais ce qu'elle dit est pas faux, Emmanuelle Wargon, quand elle dit les lotissements ont trois conséquences, la désertification des centres-villes qui n'ont plus de services, plus de coiffeurs, plus d'épiceries, c'est-à-dire que les gens vont dans les grandes surfaces, et une perte du lien social dans ces lotissements, et puis on a perdu les terres agricoles.
La désertification des centres-villes, c'est pas du tout la raison pour laquelle les résidents ne sont pas la cause de la désertification des centres-villes. Enfin, aujourd'hui, et c'est une politique d'ensemble qu'il faut mener, aujourd'hui, rien n'est fait pour soutenir nos commerçants et nos artisans. On les pousse justement à quitter les centres-bourgs parce que les charges sont trop importantes. Ouais. Donc, c'est ça
ce que dit Lucia. Elle dit, on peut avoir une maison de maçon dans un lotissement car c'est plus abordable pour les réseaux. Comme toujours, LREM dit des conneries. Après demi-tour, parce que nous n'avons rien compris.
On ne fait rien pour les classes moyennes. Donc forcément, on les pousse à aller au plus simple et au plus efficace et au moins cher.
Mais à l'époque de François Hollande, ça s'appelait des couacs, tout ça. On a perdu ce mot.
Ah oui, c'est vrai.
Vous vous souvenez, à chaque fois, on faisait un nouveau couac et pourtant, il y en a...
Parce qu'on est dans l'entre-deux, c'est en même temps, on peut tout dire en même temps.
C'était mieux avant.
C'était mieux avant, voilà. Michel, un coup de cœur ?
Non, ouais. C'est pas vraiment un coup de cœur, ça concerne la Guyane et la Martinique également. Ouais. En Guyane, les anti-vax, je dis bien les anti-vax, sont extrêmement organisés, puissants et efficaces dans leurs actions contre la vaccination, mais bien au-delà, ils ont réussi le tour de force à bloquer tous les centres d'essence. Donc il y a en fait une pénurie d'essence actuellement en Guyane depuis 24 heures parce que les anti-vax bloquent tous les circuits de distribution vers les stations d'essence. Et en fait, moi je voulais dire aussi que en Martinique actuellement, il y a tous les jours des violences contre les personnes qui vont se faire vacciner. Aux abords des hôpitaux, vous avez des rassemblements d'anti-vax extrêmement organisés et qui mêlent dans le même discours la critique de la vaccination, la critique de la France et la critique de la métropole. Et ils sont extrêmement organisés. Alors évidemment, on en parle très peu, sauf quand vraiment ça flambe énormément. Mais je voudrais juste alerter sur le fait qu'il y a actuellement un travail de minage de la société martiniquaise et la société guyanaise. J'ai moins d'informations sur la Guadeloupe, donc là je ne me prononcerai pas, mais qui est vraiment impressionnant. Et je voulais juste dénoncer ce comportement qui, à mon avis, est fort préjudiciable pour nos amis antillais et guyanais.
Oui, de commentaires
Non. Bah, j'ai vu les déclarations de Christiane Taubira, je pense qu'elle porte aussi une responsabilité dans cette situation.
Bien sûr, elle ne s'est pas prononcée, elle a refusé de se prononcer.
Non, voilà. Oui. Petite info. Ce qui était une forme de prononcement.
Voilà.
Petite info, effectivement, les anti-Guyane, il y a quelque chose de culturel
aussi,
qui, moi, je reconnais qu'il m'échappe. La Réunion, qui est aussi une île coloniale et avec une forte communauté créole, etc., ça ne se passe pas du tout de cette façon-là. Ça se passe mieux, ils sont en train d'en sortir. Ils organisent d'ailleurs le fameux Grand Raid, la Diagonale des Fous. Enfin, je veux dire, on mène de nouveau une vie normale. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas à quoi c'est.
Peut-être juste un mot pour dire aussi qu'en arrière-fond, il y a le 12 décembre, même si la date est remise en question, le troisième référendum en Nouvelle-Calédonie sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui est un enjeu majeur pour la France et pour la métropole. Parce que si jamais le vote devait être négatif, ça aurait des conséquences absolument dramatiques. Mais on parle d'un report, puisqu'il y a encore du Covid assez important en Nouvelle-Calédonie. Et qu'on discute d'un possible report de ce référendum.
Mais c'est vrai que, juste pour reprendre ce que vous disiez, dans la gestion de la crise, moi je me souviens, parce que le président de la République nous a demandé de siéger exceptionnellement pour les mesures sanitaires en Guyane, en Outre-mer. C'est justement, je pense, dans la gestion de la crise, il y a un problème, parce qu'on ne gère pas la France dans son ensemble. ensemble, on la gère par morcellement. Donc on fait des dispositifs pour la métropole et puis ensuite on les réajuste pour l'outre-mer. Donc il y a un petit souci aussi, je pense, au niveau de la gestion de la crise par le gouvernement.
Alors Anne-Laure, vous êtes la seule bienveillante aujourd'hui, vous avez un coup de cœur.
Oui, moi j'ai un coup de cœur parce que vous savez, c'est voilà, je pense qu'on devrait tous avoir à cœur de défendre la France des territoires. Et c'est vrai que c'est pas toujours ce que fait le gouvernement. Et moi, c'est en revanche mon action au quotidien. Et j'étais ce week-end, comme je le suis fréquemment bien sûr, mais à une belle fête, la foire aux pommes. Alors vous connaissez sans doute pas ce beau village de Maine-et-Loire qui est Moulierne, mais une belle fête la foire aux pommes. On mangeait des pommes.
Alors,
exactement.
Je sais pas
on a mangé
vous
beaucoup
roulez
de pommes
pour le congrès d'Hélène, mais vous roulez pour Chirac.
Voilà,
vous roulez pour Chirac.
Mais bon, ça fait chaud quand même.
Il y a un message caché.
Voilà. Nos arboriculteurs sont très présents dans le territoire et c'est vrai que du coup on a des fêtes autour de ces beaux produits. On a mangé des beignets aux pommes aussi, des tartes aux pommes. Effectivement, il y a eu des concours de la plus grande tarte aux pommes, notamment organisée par le comité des fêtes. Mais voilà, tout ça pour dire que moi j'étais donc dimanche à cette belle fête et je veux vraiment tirer mon chapeau à l'ensemble des bénévoles, à l'ensemble des comités des fêtes de France, particulièrement bien sûr celui de Moulières, mais pour leur dire bravo parce que aujourd'hui, avec tout ce qu'on leur impose comme normes, des normes Covid ou pas, mais renforcées aussi avec le Covid, franchement, chapeau bas à tous ces gens, à tous ces bénévoles qui se donnent pour organiser des manifestations sur nos territoires, dans nos communes rurales.
Alors, ce mot de territoire, moi, je le trouve insupportable.
C'est le territoire, c'est notre territoire français.
Moi,
on disait les régions, on parlait des régions, des communes, notre patrimoine, notre pays.
C'était même une notion administrative.
Le côté, Jean-Pierre Pernaut est d'accord avec moi, donc c'est pour ça que je me permets d'assister. Je trouve qu'il y a un côté euphémisme, neutre.
Justement, en région, en province. Je vous le dis, on est très fiers et c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'on n'en parle jamais des belles choses qui se passent dans nos régions.
Et donc, moi, Gilles est d'accord avec moi. Un auditeur me dit ce mot est horripilant.
Je suis d'accord aussi.
Et bien, la ruralité, alors, voilà. Notre ruralité, notre campagne, nos beaux villages de France.
Donc, redites-nous le nom du village.
Moulières, en Maine-et-Loire. Je vous invite, parce que l'année prochaine, c'est la 50e.
Des pommes.
J'aurais pu.
Des beignets. On n'a pas que des pommes normandes, alors.
On a des pommes de Maine-et-Loire. Et l'année prochaine, je vous ai invité à la 50e. Ce sera une belle fête l'année prochaine. Et il y aura des beignets. 36 000 beignets qui ont été faits ce week-end.
On vous prend. Autour du 1er novembre, c'est l'olive qui va être reine.
Chaque région de France a ses spécificités.
Chaque
région,
vous
voyez, c'est un territoire. Et vous, non, il y a pas de.
On n'en est pas à l'horizon.
Écoutez, on se retrouve dans un instant des sujets à débattre. Est-ce qu'on a le droit de dire que l'on vote Marine Le Pen sans risque, sans être stigmatisé? C'est l'humoriste Philippe Chevalier du duo Chevalier Las Palès qui a affirmé qu'il voterait pour Marine Le Pen. Évidemment, ça fait réagir. Pourquoi évidemment d'ailleurs? À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio et ce sujet qui s'impose dans l'actualité. Hier, l'humoriste Philippe Chevalier était l'invité de Jordan Deluxe. Écoutez ce qu'il répondait à la question sur son vote.
Zemmour ou Marine Le Pen, vous mettez le bulletin où?
Pour l'instant, je le mettrais chez Marine.
D'accord.
Parce que je la trouve... je trouve qu'il y a une base populaire. D'accord. Et je ne dis pas ça par démagogie. D'accord. Hein. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui souffrent.
Et Macron ou Marine Le Pen, ce serait aussi Marine Le Pen?
Ah oui.
D'accord, donc vous êtes d'extrême droite.
Je ne suis pas d'extrême droite.
Le Pen, c'est extrême droite.
Non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai peur du mondialisme. Moi, j'ai un peu mal pour mon pays. Vous savez, moi, ma femme est sénégalaise. Donc là-dessus, je n'ai pas de leçon à recevoir.
Voilà. Donc, cette phrase a fait réagir, a été commenté dans les médias. Un auditeur nous dit oui, s'il avait dit qu'il votait Jadot, personne n'aurait rien dit.
Mais il y a une petite coupe quand même dans l'extrait que vous avez diffusé, parce que ce qu'il dit aussi, c'est, il le dit, il a mal à son pays, il trouve que la situation de la France est catastrophique, et ça fait peut-être écho à ce que vous dites dans votre livre sur la justice aussi en France, que les Français ne supportent plus la justice française. Il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui qui sont tabous, dont on ne peut pas parler et qui sont interdits. Et donc les Français n'en peuvent plus. Et donc je crois pas que ce soit un tabou de dire qu'on vote Marine Le Pen. Le problème, c'est que dans son intervention, je crois que ce qu'il dit ne correspond pas du tout à ce que Marine Le Pen va proposer, parce que Marine Le Pen, et c'est aussi peut-être pour ça que aujourd'hui les gens disent moins qu'ils votent Marine Le Pen que Éric Zemmour, parce qu'en fait aujourd'hui Marine Le Pen ne propose rien, elle ne fait que surfer sur des peurs, elle ne propose strictement rien pour les classes populaires.
Éric Zemmour propose.
Ben Éric Zemmour, il a un nouveau discours, il a un nouveau discours et effectivement il pose de nouveaux sujets.
Un nouveau discours, celui du père de Marine Le Pen, c'est ça?
Il pose des sujets sur la table qui ont été ignorés jusque-là. Et donc je crois qu'on doit avoir la possibilité de débattre de tout. Aujourd'hui, il y a un politiquement correct. On n'a plus le droit de parler de rien. Donc si on n'a plus le droit de parler de rien, les Français se recroquevillent sur eux. Et donc effectivement, ils choisissent le vote contestataire. Et effectivement, ne veulent pas dire qu'ils votent Marine Le Pen. Je crois qu'au contraire, on doit susciter le débat. On doit pouvoir parler de tout. On aura le débat autour de Miss France et des féministes. Voilà. Ouais. Ça fait partie de ces sujets-là qu'on ne peut plus aborder. Les Français en souffrent sur les territoires. Quand on parle avec les gens, ils voient ce qui se passe au plus profond du pays. Et c'est ça que les responsables politiques doivent comprendre. Ouais. Il faut que ça reflète leur vécu du terrain.
Alors, évidemment, c'est bien triste qu'on soit amené à parler de ce qu'a dit Philippe Chevalier. Parce qu'effectivement, dans le landerneau politico-médiatique parisien, c'est mal de voter Marine Le Pen, et c'est encore plus mal de le dire. Et je pense qu'il y a une conviction très ancrée dans les élites de notre pays que c'est pas bien de voter très à droite, c'est clair.
Ah non, mais c'est quelque chose.
Qu'est-ce qu'il fait, Chevalier? Il est à la fois courageux. Et en même temps, il est un peu honteux de ce qu'il dit. Oui. C'est-à-dire que, quelque part, il a une mauvaise conscience par le fait qu'il est obligé d'ajouter « ma femme est sénégalaise ». Voilà.
Mais vous rendez compte, vous dites qu'il est courageux.
Je tiens à préciser.
Il y a un précédent, Jean Roucas.
Oui, Jean Roucas, et de la personne, et Franck de la personne.
Franck de la personne, Jean Roucas, dès qu'il est allé à un meeting, il était allé, je crois, à un meeting de Marine Le Pen, il a sauté immédiatement, il a perdu
Faudel a soutenu Nicolas Sarkozy,
et il l'a payé très cher en termes d'invitations sur des plateaux de télé, etc. Donc, c'est pas que l'extrême droite. Mais moi, je voudrais quand même.
C'est
le fait aussi d'être de droite qui peut poser problème.
Exactement.
Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est quand même dramatique.
D'avoir des convictions fortes,
pas tous en même temps.
Je pense que le problème, il est aujourd'hui un petit peu différent dans le passé. C'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. Moi, je constate que la parole s'est libérée. Quand j'entends ce que raconte notre ami Éric Zemmour, c'est quand même assez prodigieux. Il y a deux ans, c'était impossible. Il y a le grand remplacement, c'est devenu un terme que tout le monde utilise partout. Il y a effectivement, et ce qui explique un petit peu la panique de cette gauche sociétale, des beaux quartiers, les bobos, etc., ils sont un peu terrorisés et paniqués. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils en rajoutent à France Inter, par exemple. Donc, il y a un vrai problème. Concernant le fait d'afficher ses opinions, on dit extrême droite pour Marine Le Pen, je veux bien. Le problème, c'est que pour les artistes, les intellectuels, etc., c'est l'aller simple vers la mort sociale. Et éventuellement professionnel, effectivement. Donc c'est quelque chose de très difficile. Et je pense qu'il y a un problème de volonté de diabolisation qui est encore présent, et deuxièmement, dans les couches qui ont de l'influence, et deuxièmement, il y a également un problème social, parce que effectivement, c'est plus facile de stigmatiser le vote Marine Le Pen que cette sympathie dont semble bénéficier, y compris dans les médias, parce qu'il est absolument partout. Éric Zemmour dit « je suis censuré sur CNews », et hop, là, ça a été un déchaînement total. Non, on peut pas dire qu'il y a une contrainte de la parole. Mais Marine Le Pen, il y a un aspect qui est tout à fait indiscutable. Elle a une fonction tribunicienne et les couches qui la soutiennent sont les couches populaires. Et là, le mépris social joue à fond. Regardez, quand ils ont, aux élections locales, quand ils ont présenté des candidats, ils faisaient des photos, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, etc. Mais le mépris qui se répandait sur eux, etc., c'était tout à fait extraordinaire. Je pense que aujourd'hui, il y a un interdit. Si, et même si vous êtes candidat à une élection pour le Front National en province, à une cantonale...
Rassemblement National.
Rassemblement National, c'est... Vous faites virer de votre boulot.
Oui, mais je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Si, il y a un interdit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le fait de faire monter Éric Zemmour, c'est assurer la réélection d'Emmanuel Macron.
Ah, ça, je suis bien d'accord.
Et ça, c'est un jeu des médias, aujourd'hui, clairement. Et les médias...
Je suis bien d'accord.
Pas sur cette antenne, peut-être.
Mais
les médias, France... Ah ben si, les médias, sur France Inter, dans la plupart du temps, font monter l'extrême droite.
Comme... pour Marine Le Pen.
Non,
eh
ben, je suis pas d'accord.
Mitterrand a joué avec le Front National, Emmanuel Macron fait la même chose. Emmanuel Macron est un héritier de François Mitterrand. Il fait exactement la même chose. Il a travaillé avec François Hollande, il est dans cette continuité. Il veut assurer sa réélection. Et donc, on fait monter le Front National, on fait monter la contestation et on fait croire aux Français que la droite, quand on a des convictions chevillées au corps à droite, on n'existe pas. Le jeu aujourd'hui, c'est de faire croire que les Républicains sont dans une situation si terrifiante qu'on ne sera même pas présent. Or, on remarque...
Enfin, madame,
on a cinq candidats. Madame, on a un débat interne aujourd'hui pour sélectionner un candidat, à la présidentielle. Oui. On a un débat, on a le choix aujourd'hui pour désigner un candidat à la présidentielle. On a des propositions, on a des parlementaires.
Mais
on
là,
a un
vous
travail
êtes en train
sur
de dire
fond.
Si on n'y arrive pas, ce sera de la faute des médias qui ont mis.
Ah non,
qui ont
pas
fait
du tout, je dis pas ça. Je dis que les médias, aujourd'hui, dans la plus grande globalité, font monter l'extrême droite pour laisser de côté la droite républicaine et d'avoir en face à face Emmanuel Macron.
Souvenez-vous de la phrase de Michel Rocard, le complot demande
quand on voit que sur certaines chaînes, il y a quand même un politiquement correct et on ne doit parler que de certaines choses et pas d'autres, et que dès qu'on a le malheur de dire quelque chose, on sort la phrase du contexte. Et ensuite,
c'est le buzz, c'est le besoin.
C'est le buzz.
Éric Zemmour fait de l'audience.
Concernant Zemmour, moi, je crois pas au complot. Je pense que...
Je n'ai pas prononcé le mot de complot.
Je dis que Zemmour roule à son corps défendant, peut-être. Je pense qu'il y a du calcul aussi, parce qu'il joue autre chose. Mais toujours est-il que les médias ont besoin d'un storytelling, ont besoin d'un récit sur les élections.
Ils ont besoin d'audience, surtout.
Voilà. Et donc, on sert Zemmour, parce que Zemmour qui monte, Zemmour qui est au bord à bord avec Marine Le Pen, etc. Les médias adorent ce discours, adorent pouvoir raconter une histoire. Oui. En revanche, que Macron en profite, parce que, soyons clairs, si Éric Zemmour est au deuxième tour, vu les écarts qu'il y a maintenant, on ne sait jamais, la valeur du ticket va être abaissée. S'il est au deuxième tour, il va être écrasé. C'est-à-dire que les sondages plus sérieux, notre ami Frédéric Dabi, le montrent.
C'est donc toute la stratégie.
Donc, beaucoup plus facilement que Marine Le Pen. Marine Le Pen était annoncée 43, 44.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Lui est à 38.
On a un peu dévié de notre sujet, mais on va y revenir dans un instant avec vous.
Il y aura
0826-300-300 si vous voulez réagir.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nous parlions donc de ce courage, je mets des guillemets, de Philippe Chevalier, du duo Chevalier-Laspalès, qui a annoncé vouloir voter Marine Le Pen. Il dit « Pour l'instant, je mettrai mon bulletin chez Marine. Je trouve qu'elle a une base populaire. Je ne dis pas ça par démagogie. Je trouve qu'il y a des gens qui souffrent. Je n'aime pas le transhumanisme. Je n'aime pas l'intelligence artificielle. J'aime ce qu'appelle Philippe de Villiers, le travail du cœur et de la main. Je trouve qu'on est en train de se déliter. » Voilà ce qu'il a dit très exactement. Et après, on est parti, on a un petit peu dévié sur les différents candidats à la présidentielle. Michel Taub, vous vouliez répondre à ce que disait Anne-Laure Blin juste avant ?
Non, mais moi, je pense que Philippe Chevalier, pour le moment, il vote Marine Le Pen, mais que dans quelques mois, il votera Éric Zemmour.
Les républicains, c'est chez nous.
Non, justement, c'était Mme Blas, je voulais vous répondre. C'est que c'est quand même pas Emmanuel Macron qui a décidé que les républicains attendraient trois plombes pour se choisir un champion.
On l'aura, votre candidat. Voilà.
Oui, mais vous l'aurez beaucoup trop tard. Mais 4 décembre, après, il y a les fêtes de fin d'année. Et vous allez commencer votre campagne le 15 janvier. Donc, voilà. Donc, non, moi, ce que je trouve regrettable, c'est que Chevalier associe à Marine Le Pen la base populaire de nos Ça me gêne. Ça je trouve ça triste. Oui, c'est-à-dire qu'on associe le peuple de France à l'extrême droite. Moi, je trouve ça vraiment, c'est un constat d'échec terrible pour tous nos gouvernants depuis des décennies. Ça, je trouve ça très triste. Mais après, il a le droit de défendre ses idées et de
maintenant,
pas se faire taper dessus.
Las Palès.
Oui.
Ah, c'est un duo.
C'est un duo, donc, mais
l'un va voter pour Marine Le Pen.
Ensemble. Non, ils sont plus ensemble, ils sont chacun au théâtre. Ah,
oui, mais quand même, ça reste dans les esprits. C'est un duo.
C'est absolument.
Donc Valérie, peut-être Las Palès va voter pour.
On attend la réaction.
Pour Macron.
Valérie, juste pour dire un tout petit mot sur les arguments qui le fait voter aujourd'hui Marine Le Pen. Quand il dit je suis contre le transhumanisme, mais je suis désolée, le Front National, Marine Le Pen, ils ne font strictement rien. Oui, pardon, oui, Rassemblement National. Ils ne font strictement rien contre le transhumanisme. Bon. Et quand il s'agit de débattre de ces questions à l'Assemblée, je suis désolée, mais si, c'est les Républicains. Et c'est là où il y a un vrai débat, un vrai faux-semblant. Aujourd'hui, l'opposition au gouvernement, c'est les Républicains. Et c'est nous qui travaillons, et notamment sur ces choses-là.
Très bien,
on a des convictions et des convictions très fortes.
Les Républicains, c'est formidable. Monsieur François-Xavier Bellamy annoncé à 15% dans les sondages, se retrouve à 8% parce que la bourgeoisie vous lâche. Ok, je veux bien.
Ils ont pas beaucoup de classes populaires. Ils font 38%
qui votent pour les Républicains. Qui votaient, c'est tout à fait exact.
Non, qui votent encore.
38% de voix ou 36% de voix à la présidentielle 2017. 4 députés. Moi, je veux bien, c'est pas démocratique. Je suis tout à fait désolé. Non. Donc, vous parlez du débat à l'Assemblée.
Ils ont
quel pouvoir? Attendez, non, ce que je veux dire, simplement, là, je veux dire, on n'est pas en train de faire un débat politique. Sur savoir si c'est Zemmour qui sera président ou si c'est Xavier Bertrand. Non, on est en train de discuter du fait de savoir s'il est possible, dans ce pays, de dire je vote pour un parti qui, je répète, a fait presque 40% des voix en 2017. Faisait entre 20 et 28 en fonction des différents scrutins et qui a subi des défaites aux intermédiaires, aux élections intermédiaires, parce qu'il y a une abstention massive qui est une tragédie démocratique pour notre pays.
Donc
il
n'y
a pas
lieu de
on ne doit pas tirer des conclusions de ces scrutins. Ces scrutins ne sont pas légitimes parce qu'il n'y a pas de quorum, faute de participation.
C'est grave de dire non, ça. Oui, si, ils sont légitimes. Non,
la légitimité... Non, ce que je veux dire...
La maire de Strasbourg, qui a été élue avec 15 000 voix... Une grande métropole européenne humaniste et attachée à un rayonnement de Strasbourg, c'est pas sérieux.
Dans
elle n'est pour moi, elle n'est pas totalement légitime.
Dans toutes les élections.
Dans toutes les élections.
Non, non,
non, non. Il y a jamais eu 100%
de
participation. C'est gravissime de dire ça. Il y a peut-être une augmentation de l'abstention. C'est effectivement au pouvoir politique.
Dans toutes les élections, partout, il y a des quorums, y compris les élections intermédiaires françaises.
Si vous. Et alors, vous voulez le vote obligatoire, alors?
Non, je dis qu'on a un problème. Je n'ai pas les solutions immédiates. Il y a un problème qui est dramatique pour ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, d'ailleurs, parce que c'est de leur faute, y compris la vôtre, d'ailleurs.
Emmanuel Macron, qui a la responsabilité historique avec Édouard Philippe, que tout le monde en sens comme étant un homme extraordinaire, sympathique, etc., le 14 mars 2020, lorsqu'ils disent on maintient les. On demande à tous les restos.
Mais je suis d'accord avec vous, mais je suis la première des opposantes à Emmanuel Macron.
Madame Brun. Parce que Macron a dit, et je l'ai vérifié, la plupart des élus de droite voulaient maintenir les élections municipales.
Mais vous savez donc très bien comment ça s'est passé.
Emmanuel
Macron, ils sont en même temps.
Je voudrais faire ma proposition juridique.
Alors faites une proposition, puis on changera de sujet.
Là, on essaye de mettre effectivement un cordon autour du vote Rassemblement National. Je ne vote pas Rassemblement National, je suis très clair. Mais il y a aujourd'hui cette espèce de discrimination permanente. Il y a des articles dans le Code pénal. L'article 225- 1 du code pénal, quelqu'un qui est licencié parce qu'il est candidat à une élection cantonale pour le Rassemblement National, eh bien, son employeur doit être déféré en correctionnel. Et je dirais que les annulations de...
Les annulations de
spectacles, etc., pour ces intellectuels, pour ces couches qui se déterminent, doivent faire l'objet des mêmes sanctions. Ça suffit, je veux dire. Georgi Kuzmanovitch, qui est déjà venu ici, il est candidat à la présidence de la République pour son parti, qui est République souveraine. Eh bien, il est foutu dehors de son boulot à cause de ça. Ben oui. Ben oui, c'est ces jours-ci, on l'a appris sous des prétextes divers, c'est à cause de cette candidature. Mmh. Donc c'est un interdit politique qui lui est infligé. Donc, il y a des habitudes qui sont des habitudes, mauvaises habitudes.
Il va falloir plaider qu'il passe plus de temps à la télé, etc. Enfin, ils trouveront bien. Oui, allez, on change de sujet. Vous ne connaissez pas ce générique?
Miss France.
Oh, vous avez dû regarder quand même.
Me comparer à Laurent Geoffrin, qu'il ne connaît pas non plus, c'est une tragédie personnelle.
Non, je vous l'ai dit hors antenne ce matin. J'avais allumé la télé, j'ai vu effectivement Laurent Geoffrin chez Pascal Praud, qui ne connaissait pas le générique, en disant qu'il n'avait jamais vu Miss France, vous non plus? Jamais.
L'émission, non, je la regarde pas. Je vois les photos, les interviews après, peut-être, à l'occasion comme ça, mais non.
Donc, l'actualité, c'est que l'association Oser le féminisme, ainsi que trois femmes qui ont affirmé avoir dû renoncer à ce concours, ont décidé d'attaquer en justice la célèbre émission qui est diffusée tous les ans par TF1, puisqu'elles doivent mesurer au moins 1m70, être célibataire, représentative de la beauté. Des critères de recrutement des candidates qui sont jugés discriminatoires. Et donc, c'est un concours sexiste qui viole le droit du travail. C'est ce qu'affirme cette association. Donc, ce sera porté devant le Conseil des Prud'hommes de Bobigny. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est... Tiens, Janie, on va commencer avec vous, Janie Leroy.
Madame de Fontenay va se retrouver mise en examen. C'est quand même un peu embêtant, vous voyez.
Alors, non, parce que ce n'est plus elle qui organise.
Elle est l'instigatrice.
Mais oui, ça change.
C'est une procédure pénale.
Maintenant, c'est
C'est en démol. Vous trouvez ça sexiste ou pas?
Oui, mais enfin, on sent un peu venir Miss Trans derrière tout ça.
Ça serait peut-être mieux. Bah oui, elle dirait rien à ce moment-là.
Non, mais sexiste, non. Enfin, par définition, ça l'est un peu.
Oui, bah oui. Mais est-ce que c'est discriminant de devoir être belle pour postuler à Miss France?
Sincèrement, moi, ça me gêne de parler de ce sujet parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle cherche? Juste le buzz. Voilà. Ouais. Elle cherche qu'on parle d'elle. Alors, le féminisme, est-ce que c'est vraiment s'occuper de ce sujet microscopique, sincèrement? Miss France existe depuis des années. C'est un concours de beauté. Ah, grosse découverte avec Oser le féminisme. Oui, bah oui, c'est un concours de beauté avec des critères. Bah oui, comme tout concours, en fait, il y a un concours avec des critères. Donc, vous devez remplir des critères pour pouvoir participer ou pas à un concours. Ce qui est très gênant dans ces prises de position, c'est qu'en fait, voilà, encore une fois, c'est un effet de buzz. On s'attaque à une grosse organisation de concours, bah Miss France, mais on va pas s'attaquer à d'autres, hein, parce qu'il existe concours de
ça
Miss
être dans
Mamie.
Le foot aussi, non?
Et je vais même vous faire une confidence, il existe même des concours de Miss Agricole. Oui. Alors, est-ce que parce qu'on doit être agriculteur pour faire participer au concours, c'est discriminatoire? Bah oui, parce que le libraire ou le boulanger du coin peut pas participer au concours de Miss Agricole. Voilà, soyons un peu sérieux. Je pense qu'en vérité, si on veut défendre la cause des femmes, il y a des sujets, des vrais sujets. Et ces féministes, ces trois féministes, peut-être, ne se sont, et en tout cas on n'a jamais entendu des féministes parler des grands sujets qui touchent les femmes. Est-ce qu'on les a entendus, ces féministes, quand il y a eu l'affaire Mila? Est-ce qu'on les a entendus? Non, on les a pas entendus. Elles se sont largement moins exprimées. Est-ce qu'on les entend sur le voilement des fillettes? L'obligation de voiler les femmes? L'interdiction pour certaines femmes de s'exprimer, d'accéder à des endroits publics? On les entend
tourner la parole.
Alors, oui, quelle est la féministe qui est derrière cette opération? C'est Madame Caroline de Haas. Madame Caroline de Haas, chacun sait ce qu'elle fait, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'elle en vit. Elle en vit grassement. Elle se fait payer par des entreprises. Pour chasser le sexisme dans les dites entreprises avec des méthodes scandaleuses. Il y a eu un scandale au Conservatoire de Paris, etc. Elle est un peu en difficulté. Donc, elle relance son buzz. Vous avez entièrement raison. Elle relance son buzz. Et elle relance son buzz en disant quoi? En disant, les gens qui participent à ce concours sont finalement embauchés par l'entreprise.
C'est du travail dissimulé.
Alors, moi, je vais me présenter au concours, vous savez, de M. Delta ou je sais pas quoi, les concours là de gars qui ont plein de muscles, les culturistes, les culturistes, et je vais dire c'est scandaleux, parce que les doués sont considérés comme n'étant pas compatibles avec
le
règlement du
concours des barbus, parce que vous savez il y a des concours pour les plus belles barbes.
Absolument.
Vous en pensez quoi, vous, Michel?
Ça tient pas debout.
Moi, dans mon journal Opinion Internationale, j'ai une rubrique à laquelle je tiens beaucoup qui s'appelle « Sois belle et ouvre-la ». Et c'est une rubrique qui est beaucoup appréciée, notamment par toutes les femmes qui m'en parlent, sauf les féministes. Parce que les féministes considèrent qu'on n'a fondamentalement pas le droit, on n'a plus le droit de parler du corps des femmes.
Voilà,
le fait de parler, d'associer à la femme un critère physique qui est la beauté, eh ben on n'a plus le droit.
C'est mal.
C'est mal. Mmh. Et vous vous faites attaquer.
Un vrai débat
sur le corps. Et je leur réponds d'ailleurs que Sois belle et ouvre-la, la marque, parce que finalement je l'ai déposée, je l'ai imaginée lorsque je présidais ensemble contre la peine de mort. Parce qu'en 2003, il y avait un concours monde de Miss Monde au Nigeria. Mmh. Et à l'époque, vous aviez des organisations qui demandaient la peine de mort contre les Miss qui allaient défiler au Nigeria. Et j'ai contacté Geneviève de Fontenay avec Élodie Gossuin, Sylvie Tellier à l'époque, et elles ont toutes posé contre la peine de mort dans le monde. Et c'est à l'époque qu'on avait fait un slogan « Sois belle et ouvre-la ». Alors en plus, ces féministes ont une représentation, une image de ces jolies femmes complètement hallucinantes. Parce qu'en plus, on peut être belle et intelligente, s'exprimer sur l'actualité, etc.
Ça passe par l'accusation de travail dissimulé, c'est-à-dire qu'elles font un travail, elles font un show,
sont
pas payées. Alors, c'est pas Caroline Dehaas, c'est Claire Serre qui en est la présidente. Voilà. Alors, peut-être qu'elle participe.
Alors, Madame Blas, est-ce que vous connaissez Lynn Carvalho?
Bon,
la Miss Maine-et-Loire qui va concourir en décembre au show de TF1. Il faut que vous la souteniez.
Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. A tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Ils ont dit qu'il n'ira pas.
Il dit ça s'arrêtera. Régis nous commente l'actualité à sa manière pendant la pub.
C'est incroyable. Encore accusé.
Et on parlait encore d'Éric Zemmour, forcé de constater. Passe sanitaire jusqu'à l'été, c'est une possibilité. Les députés se penchent ce soir sur un 10e texte consacré à la crise sanitaire depuis mars 2020, avec à la clé la prolongation possible de ce passe sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Alors évidemment, ça ne vous a pas échappé qu'au milieu, il y a le mois... Il se passe un petit quelque chose. La présidentielle, les législatives, évidemment, l'opposition est vent debout. Gérard Larcher a d'ores et déjà annoncé qu'il ne donnerait pas de blanc-seing à l'exécutif pendant une période aussi longue. Donc est-ce que c'est un outil politique qui veut...
Je voudrais demander à...
Michel Daube.
Puisque nous avons une députée de la République à cette table, quand auront lieu les vacances parlementaires pour les élections présidentielles? Jusqu'à quand?
On siège jusqu'en février, mais on est député jusqu'au mois de juin.
Voilà, mais je ne comprends pas pourquoi, effectivement, s'il y a nécessité de prolonger la possibilité du pass sanitaire, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que normalement le 15 novembre, c'est la fin du pass sanitaire.
Mais au moins,
ils auraient pu dire on se donne jusqu'au dernier jour de la session parlementaire et on revotera fin février si la situation l'exige. C'est de l'abus de pouvoir, c'est clair. C'est de l'excès de pouvoir de la part du gouvernement et c'est totalement excessif.
Vous êtes sur la même ligne.
J'aborde le débat de ce soir avec le même état d'esprit. C'est-à-dire que il a été voté. Il faut se rappeler quand même des conditions du vote. Le pass sanitaire a été adopté dans la nuit, au plein milieu du mois de juillet. On a siégé jusqu'à 6h du matin pour que le gouvernement fasse passer son pass sanitaire. Et dans ce texte, il était effectivement prévu qu'au 15 novembre, il n'y ait plus de pass sanitaire. Et qu'est-ce qu'on voit dans le texte qui nous est présenté par le gouvernement? C'est que la date du 15 novembre n'existe plus. Donc on ne sait pas ce qui se passe après cette date du 15 novembre. Est-ce qu'il existe encore le pass sanitaire ou pas? Mais surtout, ça proroge. Alors le gouvernement nous dit les possibilités d'activer le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Alors là où je vous rejoins, je suis désolée, moi je ne donnerai pas, et je suis sur la même position que Gérard Larcher, je ne donnerai pas en tant que député de la République et de la Nation un blanc-seing au gouvernement. Parce que clairement, il s'est isolé pendant toute la gestion de la crise, tout seul. Ils ont tout fait tout seul, en comité très restreint autour d'Emmanuel Macron. Là, ce qu'il demande au Parlement, c'est clairement de lui donner les clés jusqu'au l'été, donc après la présidentielle, après les élections législatives, pour pouvoir faire exactement ce qu'il veut pendant toute cette période de la campagne campagne présidentielle. Eh bien, pour nous, pour la majeure partie des Républicains, ce sera le cas. Nous dirons non à cette demande du gouvernement, parce qu'il n'y a aucune raison de se priver d'un contrôle parlementaire. Et c'est fondamental dans une démocratie. Si le gouvernement peut faire tout seul, dans ce cas, on n'a plus besoin de députés. Et donc, on n'est plus dans une république, on n'est plus dans une démocratie, on est dans une dictature.
Vous n'êtes pas de l'avis de ce bon Stanislas Guérini qui dit que c'est un instrument de liberté, le pass sanitaire?
Ah ben, on peut en parler aussi, sur le fond.
Je l'ai entendu, c'est hallucinant. Un instrument de liberté
qui nous empêche de faire augmenter l'épidémie. On voit bien qu'aujourd'hui, on a le pass sanitaire et on entend là, possiblement une cinquième vague.
Non,
donc,
c'est pas une vague, c'est un outil pour obliger la vaccination.
On parle beaucoup du pass, mais on parle de moins en moins de sanitaire. C'est-à-dire que c'est très flou. Dans un premier moment, tous les jours, tous les soirs, on venait nous annoncer le nombre de morts, etc. On était vraiment tenus au courant, au millimètre près. Et maintenant, il y a une espèce de flou, une communication, on ne sait pas très bien où on est le virus, où on est la maladie. On nous parle du pass sanitaire sans cesse.
Et la recherche
mais le
sur
sanitaire,
un traitement.
Qu'est-ce qu'il en est?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il en est? Vous êtes, s'il y a quelqu'un qui est au courant autour de la table.
Je vous pose la question parce que je suis moins proche que vous de cette vie politique. À quoi joue ce pouvoir? Je parle de Guérini, qui est le porte-parole de l'REM, qui vient dans une espèce de flash totalitaire. On dit, il nous faut maintenant définitivement le pass sanitaire pour tout le monde,
exactement.
Toute la vie.
Je vous cache pas qu'en tant que parlementaire, en tant que député, j'ai même pas les réponses. Je n'ai même pas les réponses. Je discutais hier avec les gens.
Pourquoi le 31 juillet?
Je vous pose la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi le 31 juillet. On lui posera la question ce soir. On ne sait pas pourquoi le 31 juillet. On ne sait pas. On ne connaît pas clairement les chiffres, la situation,
les cas,
et la recherche. Moi, par rapport à la recherche, est-ce qu'on arrive à avoir des traitements aujourd'hui qui avancent une recherche en France sur comment guérir du Covid?
Est-ce qu'il n'y aurait pas la volonté de mettre la troisième dose dans le pass. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette volonté de mettre la troisième dose?
Ah bah vraisemblablement, je pense qu'elle va l'intégrer.
Il va falloir qu'il y ait 50 millions de personnes qui aillent se faire faire la troisième dose.
Pour l'instant, ça ne concerne que les plus de 65 ans.
Il faut
quand même reconnaître que le 12 juillet, lorsque le président de la République a annoncé le pass sanitaire, en 4, 5, 6 semaines, vous avez eu un bond considérable du nombre de vaccinations en France. Il faut quand même rappeler ça. Et il faut quand même rappeler aussi qu'on est toujours très en retard en France. Il y a toujours 5-10% des personnes les plus âgées, des personnes les plus vulnérables, qui ne sont toujours pas vaccinées. Et donc, c'est vrai, il y a aussi un contexte général qui explique.
Mais ils ne seront pas vaccinés, ceci dit, ça ne doit pas empêcher le
gouvernement de se soumettre au contrôle parlementaire. Et je pense qu'ils auraient pu confier à une commission permanente le soin, tous les 3 mois, de revisiter la date éventuelle.
Quel est l'objectif de ce pass
sanitaire? Voilà, la vérité du pass sanitaire, en fait, c'est pas une question sanitaire. Non. Oui, bien sûr, il y a eu une augmentation de la vaccination, et c'est heureux, les gens sont fait vacciner, sauf que c'est un faux débat, puisque vous restreignez les libertés sans... par ailleurs, aller vers l'obligation vaccinale. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne veut pas endosser la responsabilité d'imposer la vaccination.
Je suis défavorable à l'obligation vaccinale, en tout état de cause.
Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on réduit les libertés, on soumet les Français à un contrôle de santé avant de pouvoir se rendre dans un espace public. On clairement met en place des discriminations sur la santé, on met en place des contrôles entre les uns, entre les autres. Ce sont quand même les serveurs des restaurants qui doivent contrôler l'accès ou pas possible des Français à une terrasse, à un extérieur. Et oui, quand on est exactement
quand
on est...
où on en est de cette pandémie? Où on en est?
Où on en est?
On a des chiffres, on voit qu'on est... qu'il y a eu une baisse des cas et des hospitalisations. Et là, ça repart légèrement. Alors, est-ce que le pass sanitaire est fait pour, justement, maintenir une possibilité de réactiver un peu l'ensemble des choses?
Le problème du pass sanitaire n'est pas un gage d'efficacité, encore une fois, de l'éradication du virus. Et là je suis scandalisée,
puisque ce qu'évoquait...
Pas tout à fait. Parce que vous n'empêchez pas avec la vaccination les contaminations, et vous voyez bien que l'augmentation des cas augmente.
Alors moi, j'aimerais tenter de répondre à la question de Valérie. Pourquoi ils veulent prolonger de presque un an, enfin jusqu'à juillet de l'année prochaine? C'est parce qu'effectivement, je pense, la solution, dans leur esprit, il va falloir que tous les 6 mois, on se révaccine une nouvelle fois. Et qu'ils vont certainement dire, puisque finalement avoir le pass sanitaire, c'est la preuve qu'on est vacciné. D'accord ? Donc la vaccination, aujourd'hui, ça va devenir, enfin demain, ça va devenir tous les 6 mois. Une piqûre de rappel. Je pense que c'est ça qu'ils ont en tête.
Ouais. Et donc, mais qu'ils se disent alors, parce donc, qu'on ne peut pas voter, on peut pas voter sans savoir.
Je ne vois pas d'autre raison possible, parce qu'effectivement, pourquoi le 31 juillet, sinon de se dire, il va falloir faire au moins 2 doses de rappel dans le temps, d'ici juillet, et donc c'est cela qui va conditionner la détention du pass sanitaire. Sinon, je ne comprends pas comment, sinon c'est du pur excès de pouvoir. Ce qui est possible aussi. Hein,
bah malheureusement, parce que avec je pense Macron, qu'on se dirige vers ça.
On en a souvent eu des illustrations. Il a quand même cette fameuse semaine du 12 mars 2020 imaginé, c'était un article bien informé du JDD qui le disait, de recourir à l'article 16 de la Constitution pour gérer la crise sanitaire. C'est quand même hallucinant. Donc ça pourrait aussi être de l'excès de pouvoir. Sinon, à mon avis, c'est la piqûre de rappel, la dose de rappel.
C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre pour ces débats passionnants. On se retrouve demain pour d'autres débats. Dans un instant, André Bercoff. À demain.